Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite en lisant deux textes dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, et nous allons lire au chapitre 7. Chapitre 7, verset 14. Ce texte va expliquer un peu plus en détail ce que nous allons partager ce soir. Verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » J'ai regardé, dans, je ne sais pas si vous avez cette version-là, la version Louis II 21, il dit question que nous sommes marqués. La notion d'une marque, quelque chose qu'on ne peut pas enlever, quelque chose qui marque notre propre corps. Verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? On va s'arrêter là pour le moment. C'est une situation qui nous parle de l'esclavage, entre guillemets. Dans notre corps, il y a une loi. Il y a deux lois, entre guillemets, qui se font la guerre. On a envie de faire du bien, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a une autre loi qui fait que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le mal. Au travers de ce qu'on a vu dans la Genèse, souvent on entend, moi, de toute manière, je suis libre. Je veux faire ce que je veux. Et ces personnes qui parlent comme ça pensent qu'elles sont vraiment libres, qu'elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent aller voir un film, elles y vont. Si elles veulent aller boire un verre, elles y vont. Effectivement, il y a une certaine liberté. Quelqu'un qui est marié, qui va voir une femme, va se dire, ben, je vais aller. Et je vais tromper ma femme parce que je suis libre. Et il est question d'une certaine liberté qui finalement, quand on regarde, n'en est pas une. Si on relit dans le livre de la Genèse, les versets 12 et 13, chapitre 3, versets 12 et 13, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Finalement, on s'aperçoit que l'un et l'autre n'ont fait ni plus ni moins que ce que voulait le diable. Ils ont exercé une liberté, entre guillemets, qui n'était qu'une obéissance. C'est là où j'en arrive à une question. Finalement, notre liberté, elle est toute relative. À qui nous voulons obéir? C'est ça la question. Adam et Ève voyaient l'arbre régulièrement. Et qui sait combien de temps sont-ils passés? Vous avez vu dans le texte, l'arbre, il était au milieu du jardin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils allaient d'un bout à l'autre du jardin, ils ne pouvaient pas le manquer. S'ils passaient au centre, ils le voyaient à chaque fois. Qui sait combien de temps ils sont passés devant sans qu'ils soient tentés? Ils n'avaient pas cette envie d'aller parce que Dieu leur avait dit de ne pas y aller. Et pourtant, un jour, ils vont avoir cette envie. Mais pourquoi ils ont cette envie? Parce qu'il y a le serpent qui est là. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 7, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Dans l'évangile de Luc, je lis aussi au chapitre 16, verset 13 « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est une divinité qui représente l'argent. Mais en d'autres termes, finalement, Mammon, on peut généraliser en parlant du diable. Alors le diable, c'est le serpent. Et Ève dit que le diable, le serpent l'a séduite. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire finalement que séduire. Alors, comme ma Bible, c'est Louis II, 1910, je suis allé voir une définition ancienne de l'époque pour savoir pourquoi Louis II, quand il l'a traduit par séduire, avait choisi ce mot. Je lis ceci. Séduire, c'est égarer, c'est abuser. Faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, par ses écrits, par ses discours, par ses exemples. Il signifie encore faire tomber en faute, suborner, corrompre, débaucher. Il signifie aussi toucher, plaire, persuader. Il s'emploie absolument, surtout dans la dernière acceptation. C'est un homme habile à séduire. Son ton séduit. Mais ce qu'on remarque finalement dans ce terme de séduire, de nos jours, quand on parle de séduire, on parle surtout entre les hommes et les femmes qui vont séduire l'autre. Mais le sens n'était pas tout à fait ça à l'origine. Il y avait, dans la séduction, il y avait vraiment cette notion de vouloir faire du mal. De quelque chose qui est pur, dans la séduction, il y a la volonté de corrompre. Pour ça, tout à l'heure, j'ai insisté sur la notion de la traduction dans Louis II XXI qui parle de cette marque. À partir du moment où Adam et Ève vont pécher, ils vont avoir cette marque. Et finalement, le diable va réussir à nous détourner de ce pourquoi on a été fait. Dans la Genèse, il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans la version sommaire de ce verset, il est écrit cette phrase « Remplissez la terre et rendez-vous en maître. » Dieu nous a appelés, quand il nous a créés, à dominer sur la terre. Dieu nous a appelés à dominer sur tout. Et on sait que le diable a été précipité sur la terre. Et quand l'homme a été mis sur la terre, il devait aussi dominer sur le diable. Il devait dominer sur Satan. Dieu reprend aussi cette idée quand il est face à Caïn, quand il a fait son sacrifice. Et finalement, il a fait un sacrifice qui ne plaisait pas à Dieu. Et à ce moment-là, il a des mauvaises pensées dans son cœur. Et que lui dit Dieu à ce moment-là? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'était à l'homme de dominer sur le diable. Alors comment il fait le diable? Parce que finalement, on se rend compte que le prince de ce monde, c'est le diable. Et finalement, dans ce qu'on a lu en introduction dans l'épître de Paul aux Romains, on voit que finalement, on ne domine pas grand-chose. On est dominé par notre propre nature. On est dominé par notre marque. Comment le diable s'y est-il pris pour nous séduire? Dans le verset 6, on lit ceci, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Le diable va utiliser notre propre corps pour nous séduire. C'est par ce qu'on voit qu'on va être tenté. Quelqu'un qui va être habitué à voler, le jour où il va passer devant quelque chose, ses yeux vont le voir, la tentation va naître automatiquement. Il va vouloir prendre la chose. Quelqu'un qui est habitué, je reprends l'exemple, qui est habitué à ne pas être fidèle à sa femme, dès qu'il va voir une jeune femme passer, ses yeux vont l'attirer et vont l'amener vers une tentation. Certains, finalement, sont prisonniers de leurs sensations aussi. Il y en a qui ont fait du sport une idole, entre guillemets, et qui, à travers le sport, vont vouloir se donner corps et âme pour avoir un beau corps, pour avoir... ressembler à des athlètes. Après, il n'y a rien contre le sport, attention, je ne suis pas en train de dire que le sport c'est malin, hein. Mais il y a certains états d'esprit qui vont vraiment aller très très loin, et finalement ces sensations que le sport va procurer, ils en sont esclaves parce qu'ils peuvent ressentir justement ce phénomène de manque. Et je peux parler des médias, parler sur Facebook pendant des heures, être tout le temps rivé sur son portable, regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Après, là aussi, là encore, rien de mal avec ces outils, mais où est la limite qu'on se fixe? Je pourrais citer les jeux. Il y en a qui sont adeptes des jeux d'argent, parce que ça leur procure des sensations aussi. Le fait de miser de l'argent et de savoir qu'ils peuvent gagner, etc., procure des sensations dans leur corps qui, finalement, quand ils arrêtent, ils ont un manque aussi qui apparaît. Et on voit que finalement, toutes ces tentations, toutes ces séductions nous viennent de notre corps. Alors notre corps, c'est pareil, attention. Le corps que Dieu nous a donné, il est bon aussi. Mais après, où est-ce qu'on se fixe les limites? Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux choses qu'on va ressentir, il faut qu'on soit veillant par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on ressent. Parce que peut-être que derrière des choses se cache le diable qui va essayer de nous séduire. Est-ce qu'on prend garde à ces choses? Alors il était précieux aussi pour ouvrir l'intelligence. Pour en parler de l'intelligence, est-ce que c'est mal d'être intelligent? Bien sûr que non. Celui qui est intelligent, bah, c'est bien, merci Seigneur. Mais il y a des fois, on veut trop réfléchir. Par rapport à certaines situations, on va être en souci pour peu de choses. On va avoir des problèmes dans notre vie, et le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui, à lui faire confiance. Et nous, on va pas s'empêcher de calculer, d'imaginer comment je pourrais faire, comment ceci, comment cela. On se met des soucis, et finalement, ces soucis-là vont nous accabler. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Par rapport à ces soucis dont je parlais, et d'autres choses, il y a un verset qui a attiré mon attention l'autre jour, parce que c'était l'endroit où je lis, dans Exode au chapitre 5 et au verset 9, juste une petite phrase, parce que Moïse va voir le Pharaon pour demander à ce que le peuple aille servir Dieu, pour commencer à demander la libération. Et le Pharaon, il dit ceci, « Écrasez-les de travaux. » C'est la version Bible du Semeur que je lis. « Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Le diable, s'il ne nous séduit pas, eh bien, il va nous écraser. Et justement, on en arrive à toutes ces choses. Les soucis de la vie, peut-être aussi quelqu'un a traversé une période de deuil, il n'arrive pas à s'en remettre. Et là, le diable appuie là où ça fait mal et fait croire à cette personne que c'est terminé, qu'on ne va pas pouvoir remonter la pente. quelqu'un est peut-être dans une phase où dans son foyer ça va pas bien, il est en train de se séparer, je ne sais pas. Et là, le diable encore va appuyer là où ça fait mal. On prend pas le temps de regarder à la parole de Dieu. Et finalement, dans le monde dans lequel on vit, on s'attache à plein de choses. On a des occupations à droite, à gauche. On est tout le temps overbooké, comme on dit. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On se lève le matin, on n'a pas le temps de lire notre Bible. On se lève le matin, on va déjeuner, on va au travail, on rentre, on fait ceci, on fait cela, mais on n'a pas le temps de s'occuper de Dieu, parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais le texte là, qu'on vient de lire, ceux qui sont écrasés, ce sont les esclaves. Parce que le peuple d'Israël, dans cette image, est esclave. Et finalement, ce que le diable cherche à faire à travers soit cette séduction par notre corps, soit par cette charge qu'il nous met, c'est nous assujettir. Il veut que nous soyons esclaves. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains que nous avons lu tout à l'heure. Finalement, le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas, parce qu'il en est incapable, parce qu'il est esclave. Il est obligé d'obéir, entre guillemets, à cette autre loi qui est dans son corps. Il va réfléchir, il va se faire des films sur des situations parce qu'il ne compte pas sur le Seigneur. Je ne parle pas de l'apôtre Paul, mais celui qui ne fait pas confiance à Dieu. Et celui aussi qui est dirigé, entre guillemets, par ses sens, va aller de droite, de gauche, et va vivoter sans se préoccuper de Dieu. Et par rapport à ça, il s'agit d'un vrai esclavage. Et pourtant, il y a une solution à cet esclavage. Pourquoi Jésus peut nous dire qu'on peut aller le voir, qu'on peut se confier en lui, qu'on peut aller à sa rencontre et prendre son joug, parce qu'il est aussi question de prendre un joug, mais le service pour le Seigneur est autrement différent. L'esclavage de Christ, comme le dit l'apôtre Paul, est bien différent de celui du diable. Le joug est doux et le fardeau léger. Satan se joue de nous et il veut nous faire croire qu'on fait ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le cas. On fait qu'obéir à nos sens. Et si on est esclave de la vie, des inquiétudes, etc., au lieu de nous confier en Jésus et de trouver du repos, Satan ne nous lâche pas. Il ne nous lâchera pas la prise qu'il a. Et il va nous accabler, il va nous écraser, comme on l'a lu, pour qu'on ne réfléchisse pas. C'est impressionnant quand je vais au travail. Tout le monde a ses écouteurs. Tout le monde est dans sa bulle. Parce que le moindre silence, ça fait qu'on commence à cogiter, ça fait qu'on commence peut-être à faire le point, j'en sais rien. Mais les gens recherchent justement cette occupation permanente. Les gens recherchent ça parce qu'ils ne veulent pas faire le point. Ils ne veulent pas réfléchir. Et finalement, c'est rester dans cet esclavage. Le diable, il est en nous. Le jour où Adam et Ève, ils ont péché, le diable est entré dans leur corps. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise, ce que je disais tout à l'heure, cette marque qu'on a en nous, ce péché qui est en nous. Le diable est en nous vraiment. Et il utilise notre corps comme il veut pour essayer de nous rendre esclaves. On est un peu quelque part des pantins, sauf qu'on a quand même notre libre choix. Et parce que le diable est en nous, on est privé de la grâce de Dieu. La solution que Dieu a trouvée, c'est la loi. La loi ? Ben non, parce qu'on ne peut pas y obéir, vous allez me dire. Ben si. Parce que quand on n'est pas au courant qu'il y a une loi, quand on n'est pas au courant que le diable est en nous, on va vivre notre vie et on va garder le diable en nous. Par contre, à travers la loi que Dieu a donnée, on sait qu'on n'est pas capable d'accomplir cette loi. Du coup, on sait que le diable est en nous. S'il n'y avait pas eu la loi, on ne l'aurait pas su. Et on serait resté avec le diable en nous. Par la loi, on sait qu'on est pécheur. Par la loi, on sait qu'on est perdu, loin de Dieu. Et grâce au fait que Jésus-Christ soit venu et qu'il ait accompli la loi, on a cette espérance d'être sauvé. Dans cet épître aux Romains, toujours, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir cette loi que nous sommes incapables de suivre. Jésus l'a accompli et il est mort d'une manière injuste sur cette croix où son sang a coulé. Il a souffert. Mais il ne s'est jamais détourné de ce pourquoi il était venu, accomplir la loi, pour que nous puissions être sauvés. Alors que nous sommes marqués par la présence du diable dans notre corps, le Seigneur Jésus va aussi nous marquer, mais d'une manière différente, en renouvelant, en régénérant notre esprit. Et là, nous aurons une autre marque que celle du diable dans notre corps, parce que nous aurons fait la paix avec Dieu, parce que Jésus est mort pour nous. Et maintenant que nous savons que par la loi qu'il a donnée, nous savons que nous sommes pécheurs, que le diable est en nous, nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous avons tous enfreint cette loi au moins une fois dans notre vie. Et à cause de ça, on est perdu. Il suffit d'une fois. On a cette marque comme Adam et Ève. Ils avaient cette marque du péché dans notre corps. Par Jésus, on peut être libéré. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, chapitre 2. Et enfin, un dernier texte qui nous parle justement du fait qu'on puisse être sauvé. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est venu sur cette terre accomplir cette loi qu'on ne pouvait pas accomplir. Nous sommes marqués par le péché, mais par Jésus, on n'est pas condamné. Parce que Jésus, lui, n'a pas été marqué. Jésus, lui, a vécu sans être marqué. Il n'a jamais péché. Et grâce à lui, on n'est pas condamné. Maintenant, il y a deux attitudes par rapport à ces choses. Sommes-nous conscients que le diable veut notre peau? Les termes sont peut-être crus, mais c'est ça. Le diable fait tout pour nous entraîner avec lui dans sa chute. Et pourtant, Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il est venu justement pour nous arracher à ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Conscient de cette marque que nous avons, conscient du péché qui est en nous, il nous faut demander pardon à Dieu. Et la deuxième étape, c'est qu'il faut croire que Jésus a vraiment tout accompli sur cette croix. Et peut-être parmi nous, il y en a aussi qui sont fatigués, qui sont chargés, qui sont accablés parce que par ces choses de la vie. Je lisais aussi dans l'Exode. Pourquoi? Quelle était la raison que Moïse avait donnée au Pharaon pour sortir d'Égypte? Qu'est-ce qu'il devait faire? Moïse avait dit à Pharaon, « Laisse-nous aller afin que nous allions servir l'Éternel et faire des sacrifices. » C'était la raison que Moïse avait invoquée au Pharaon pour qu'il puisse laisser partir le peuple. La libération de l'esclavage, elle va passer par des sacrifices. La libération de l'esclavage dans lequel nous sommes va passer par des sacrifices. C'est la voie que Dieu a choisie pour que nous soyons libérés. Paul écrit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » J'ai mis en rouge, entre les deux phrases, il y a un petit point-virgule. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le point-virgule, c'est un signe de la langue française qu'on ne maîtrise pas trop. Le point-virgule, il indique que ce sont deux locutions indépendantes, mais liées quand même. Et donc l'apôtre Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ensuite, il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce qu'effectivement, on est toujours dans notre corps. Et pourtant, il vit dans la foi au Fils de Dieu, par le fait qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Il y a un moment donné où on fait notre sacrifice. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va commencer à douter. on va commencer à se dire, mais est-ce que je suis pardonné? Est-ce que je suis vraiment libéré? Et c'est là qu'il faut que la foi prenne le relais. Parce qu'il y a un moment donné, on peut vivre dans la culpabilité éternelle. On va se mettre en règle de bon cœur. On va se placer devant le Seigneur. Et on va lui demander pardon. On va aussi, comme le fait Paul, on va s'offrir en sacrifice vivant, entre guillemets, c'est pour dire que voilà, les choses qui nous attirent et qui nous sont chères, eh bien, on veut les mettre de côté pour servir l'Éternel. Parce qu'on désire le suivre de tout notre cœur. Et que tout ce qui nous empêche de nous approcher de lui, on va le mettre de côté. On va faire ce sacrifice parce que, en faisant ce sacrifice-là, nous serons vraiment libres. Et si jamais il y a des doutes, c'est là que la foi est nécessaire. Il faut être crucifié avec Christ. C'est la première étape de la libération de cet esclavage. Et la deuxième étape, c'est de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Si j'ai pas la foi, on est toujours sous l'esclavage, parce qu'on est toujours dans notre corps. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Est-ce que nous sommes prêts, justement, à tenter cette expérience de nous mettre à part et de faire le point avec Dieu? Seigneur Jésus, je sais que j'ai cette marque du péché en moi et je suis perdu. Pardonne-moi, Seigneur. Et est-ce que je suis prêt aussi à faire ce sacrifice vivant, à se dire, voilà, Seigneur, il y a ceci, il y a cela, ça prend tout mon temps et ça m'empêche de m'approcher de toi. Seigneur Jésus, je veux vivre par la foi et mettre ceci de côté pour avoir plus de temps pour toi. Ce sont deux choses qui peuvent nous libérer justement de cet esclavage dans lequel le diable nous met. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, te remercier, te louer. Parce que même si le péché est en nous, même si nous sommes encore dans ce corps de chair, nous pouvons avoir la victoire par la foi en ce que tu as fait sur cette croix, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, nous remportons une victoire pleine et entière. Merci Seigneur, parce qu'à cette croix, tu as remporté la victoire. Et après ta mort, tu es ressuscité et nous pouvons encore te prier et t'invoquer, parce que nous savons que tu prends notre défense dans le ciel auprès du Père. Tu intercèdes pour nous, Seigneur Jésus, et vraiment nous voulons te rendre grâce, parce que dans notre vie de tous les jours, nous savons que nous pouvons toujours aller vers toi. Nous savons que tu nous accueilles les bras ouverts. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et tes bienfaits. Loué sois-tu, Père. Amen.